Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Bibi Mukonkole.
Le gouvernement soutient la décision du retrait en circulation des passeports congolais semi-biométriques. Selon le porte-parole du gouvernement, l'octroi des visas aux Congolais qui se rendent à l'étranger fait l'objet de plusieurs controverses. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est arrivé hier à Kananga, au Kassai central. C'est pour participer à la conférence de la paix, de la réconciliation et du développement du Grand Kassai en proie aux violences ces derniers mois. L'invité de ce matin, c'est le député national Juvénal Mounobo. Il est l'auteur d'une question orale avec débat adressé au vice-premier ministre des Affaires étrangères sur l'invalidation des passeports biométriques. Bonjour et très bonne matinée chez vous. Le gouvernement soutient la décision du retrait en circulation des passeports congolais semi-biométriques dans une mise au point faite par son porte-parole sur les antennes de la RTNC. Lambert Mende dit que la circulation concomitante des passeports semi-biométriques et biométriques pose un réel problème au regard des autorités étrangères quant à la fiabilité même du passeport congolais. Le point avec Askin Zegbia.
D'après Lambert Mende, l'octroi des visas aux Congolais qui se rendent à l'extérieur du pays fait l'objet de plusieurs controverses. À titre illustratif, a-t-il dit, certaines puissances étrangères ont déjà annoncé qu'au mois de novembre 2017, les détenteurs de passeports semi-biométriques ne pourront plus accéder sur leur territoire. Le gouvernement estime que le passeport biométrique n'offre pas toutes les garanties sécuritaires. Selon Lambert Mende, l'Organisation de l'aviation civile internationale a enjoint les États membres à opter pour le passeport biométrique à puce parce qu'il contient le renseignement nécessaire sur le détenteur, contrairement au passeport semi-biométrique. Le gouvernement affirme que le passeport congolais reste et demeure la propriété de l'État congolais qui, pour l'une ou l'autre raison, peut le retirer de la circulation. Dans sa mise au point, le gouvernement reconnaît certes qu'au lancement du passeport biométrique, il avait été annoncé que les anciens passeports semi-biométriques resteront en circulation jusqu'à l'expiration de leur validité. Cependant, dit Lambert Mende, face aux défis sécuritaires et migratoires du moment, le gouvernement congolais ne peut plus autoriser la circulation concomitante de ces deux types de passeports.
Et puis toujours concernant l'invalidation des passeports semi-biométriques à partir du 16 octobre, cette décision est impopulaire et inquiétante. Elle risque de provoquer une grogne dans l'opinion nationale. À propos du député national Juvénal Mounobo à Radio Kapi, il demande au ministre des Affaires étrangères, Léonard Cheikh Kitundu, de fournir des explications au peuple congolais sur la motivation d'une telle décision. Il a dit samedi 16 septembre, en marge du dépôt au bureau de l'Assemblée nationale, de la question orale avec débat adressé à Léonard Cheikh Kitundu. Juvénal Mounobo est au micro de Paul Matendo.
Mon premier souci, c'est qu'un débat soit engagé sur la question. Il ne faudrait pas que l'Assemblée donne l'impression qu'elle est insensible aux difficultés de la population. Et je voudrais donc que le débat soit engagé, que le vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères arrive et nous donne, au-delà du communiqué, qu'ils nous disent quelle est la motivation profonde. Parce qu'il y a des préoccupations, les élus du peuple ont des questions à poser. Mais aussi sur la gestion des passeports, les recettes collectées lors de la délivrance des passeports, où va cet argent et tout ça. Et si les réponses du vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères ne sont pas... Nous souhaitons que ces réponses soient convaincantes. Et si ces réponses ne sont pas convaincantes, nous allons demander le retrait pur et simple de cette mesure. C'est une mesure impopulaire. C'est d'abord une décision qui inquiète plus d'une personne, hein, beaucoup de nos compatriotes, même ceux qui vivent à l'extérieur. Ça va sûrement provoquer une grogne. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas si facile d'atteindre un poste pour la capture, introduire les dossiers et tout ça. Et beaucoup de gens n'ont pas de moyens.
Dans l'actualité, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est arrivé hier dimanche à Kananga, au Kassai central. Emmanuel Ramazani y est pour participer à la conférence de la paix, de la réconciliation et du développement du Grand Kassai secoué par les violences ces derniers mois. Et cette conférence va débuter cette semaine à Kananga. Emmanuel Ramazani est au micro de Blaise Ndongala.
Maintenant, il faut une conférence où les gens doivent se parler, les gens doivent se regarder dans les yeux pour qu'on se dise la vérité, pour qu'on dise plus jamais ce qui s'est passé dans l'espace kassaïen pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, et rétablir aussi les responsabilités. Pendant 3 jours, nous allons réfléchir sur la paix et sur surtout la réconciliation. Ceux qui ne sont pas encore là, chaque fois quand je viens ici, on pose la question, tel n'est pas venu le gouvernement, tout le monde va venir. C'est la conférence de tout le monde. Les portes seront ouvertes donc à tout le monde. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Ici, c'est le peuple kassaïen. Nous avons donc invité tout le monde.
Et puis toujours au Kassaï, disons que les femmes du Kassaï central plaident pour leur participation au forum sur la paix qui se tiendra du 18 au 20 septembre à Kananga. Elles se sont exprimées samedi lors d'une rencontre organisée par le Conseil régional des ONG de développement du Kassaï et du Kassaï central. Cette plateforme accompagne les femmes pour fédérer leurs efforts dans la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Nathalie Kambala, membre d'une structure féminine locale, indique que les femmes ont été la cible lors des violences liées au phénomène Kamuinansapu, elle a dit à Karine Damousseau.
Juste après la guerre, il y a eu beaucoup de cas de violations de droits de l'homme, il y a beaucoup de cas de tueries, il y a beaucoup de cas de violences sexuelles et celles basées sur les gens, et c'est la femme qui est la grande victime. C'est comme ça que nous on s'est dit, on doit aussi participer, on doit se mettre autour d'une table, donner aussi nos idées. Vous savez que la femme, c'est la plus grande influente sur le processus de paix qui s'est fait à tout le niveau. C'est comme ça, nous on s'est dit, au lieu de rester comme ça, qu'on s'arme déjà avec toute la documentation possible sur le droit de la femme et à les présenter et espérons un bon résultat. Notre souci est que la femme participe à part égale avec les hommes. Et avec notre cahier de charges, nous allons déposer au secrétariat technique pour que nous participions aussi activement à ce processus de forum de paix qui s'est fait dans notre province.
Et puis cet incident malheureux survenu entre les réfugiés burundais et les forces de l'ordre à Kamanyola dans le sud Kivu, le ministre du Développement Rural donne de la voix tout en compatissant pour les morts et les blessés. Justin Bitakwira, qui dénie le statut des réfugiés à ces Burundais, parle de légitime défense appliquée par les forces de l'ordre face aux personnes civiles armées. Il recommande une enquête et l'éloignement de ces Burundais de Kamanyola. Écoutez Justin Bitakwira au micro d'Innocent Linga.
Vous savez qu'entre le Burundi et la RDC par Kamanyola, c'est moins de 2 km. Selon les normes internationales, selon les droits humanitaires, tous les réfugiés, on ne peut que le localiser à plus ou moins 250 km. Donc ce sont des gens qui sont venus se promener, ce ne sont pas des réfugiés. Et nous constatons que parmi eux, il y a des miliciens. Ils doivent être mis hors état de nuire. Ça, c'est tout à fait normal. Ce qui s'est passé à Kamanyola est qu'il y a plus de 10 000 Burundais qui ont traversé, non reconnus par le HCR. Et il n'y a pas de camp de réfugiés à Kamanyola. Et à un certain moment, on a constaté que parmi eux, il y en a qui s'autorisaient à faire la patrouille la nuit avec des armes blanches. Alors, on en a attrapé 4 qu'on a voulu effectivement transférer à Uvira pour qu'ils rentrent chez eux au Burundi. Femmes, enfants et vieux sont venus effectivement attaquer le bureau de la NER pour détruire. Et pas seulement détruire, mais ils ont commencé à arracher 2 armes à nos policiers. Et ils ont tiré à balles réelles sur le commandant de la police qui est grièvement blessé. Les FARDC sont venus à la rescousse des autres et ils ont encore tiré sur notre commandant. Vous vous imaginez la réaction des militaires qui se trouvent en face des civils qui ont déjà arraché les armes. Et par légitime défense, effectivement, comme c'était la nuit, ils ont commencé à tirer, et bon, c'est vrai, on comptabilise 32 morts.
Que dit l'accord global et inclusif de la CINCO en ce qui concerne l'organisation des élections en décembre 2017? C'est la raison de la campagne de vulgarisation de cet accord qu'a lancé samedi dernier à Kinshasa la majorité présidentielle. D'après son secrétaire général adjoint Joseph Kokonyangi, l'accord stipule que les parties prenantes ont convenu de l'organisation des élections en une seule séquence présidentielle, législative nationale et provinciale au plus tard décembre 2017. Toutefois, le CENSA, le gouvernement et la CENI peuvent unanimement apprécier le temps nécessaire pour le parachèvement des 10 élections. On l'écoute au micro de Jacques-Yves Molima.
Il faut que l'accord soit vulgarisé et en 4 langues nationales pour que les Congolais, même s'il est à quel point de la République, puissent comprendre ce qui a été signé à la CENCO. Aujourd'hui, nous avons crevé l'abcès. Nous avons remis les copies à toute la population et c'est écrit noir sur blanc sur cet accord que le 31 décembre, c'était mieux que les 3 élections soient organisées. Toutefois, s'il y a impossibilité, il y a réellement impossibilité avec les événements du Kassaï, avec les lois qui doivent être votées au Parlement et le CENSA, qui est dirigé par le Rassemblement, le gouvernement, qui est dirigé par le Rassemblement, la CENI, qui est dirigée par la société civile, pour se réunir, pour nous donner, nous tous, nous attendons ce calendrier-là pour voir la date. Il ne faut pas que quelqu'un débarque pour dire que non, le 31 décembre, le ciel va tomber. Non.
Un plan Marshall Noël Tchiani pour la reconstruction de la RDC a fait l'objet le week-end d'une conférence débat à la Maison de France ici à Kinshasa. Ce plan coûte 800 milliards de dollars pour développer la RDC dans 15 ans. Il a été présenté par Dr Noël Tchiani, économiste fonctionnaire à la Banque mondiale et candidat à la prochaine présidentielle en RDC. Selon lui, son plan repose sur 10 piliers, promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit, la bonne gouvernance et l'utilisation efficace des fonds publics. Par ailleurs, se confiant à Radio Capi, Noël Tchiani dit être préoccupé par le risque du retard des élections à la fin de 2017. On écoute Noël Tchiani au micro d'Askanzebia.
Moi, je voudrais dire que si nous n'avons pas les élections avant la fête de cette année, il nous faudra envisager une autre façon de faire les choses, parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ceux qui sont responsables du blocage politique actuel vont continuer à bloquer la machine politique pour qu'on n'aille jamais aux élections. Or, le peuple est pris en otage à cause de cette situation-là. Donc, au cas où nous n'avons pas les élections avant cette année, je voudrais que nous puissions organiser une transition, mais une transition sans les responsables du blocage politique actuel qui devront se mettre de côté et qu'on aille donc des nouvelles personnes, notamment qu'on ait par exemple un gouvernement dirigé par un technocrate, quelqu'un donc qui n'a jamais été mêlé dans la politique d'ici, mais que ce gouvernement puisse mobiliser non seulement la population congolaise, mais également la communauté internationale pour qu'on puisse mobiliser les ressources, organiser les élections dans les meilleurs délais et que nous puissions donc avoir les institutions légitimes issues de ces élections-là pour que nous puissions nous concentrer aux autres choses, notamment le développement économique et social du pays.
Dans l'actualité, disons aussi que les professeurs de l'université de Kinshasa, UNIKIN, et ceux de l'université pédagogique nationale, UPN, ont radicalisé leur mouvement de grève depuis jeudi 14 septembre dernier, ici à Kinshasa. Des sources proches de ces deux établissements académiques affirment que les enseignants justifient cette option par le fait que le gouvernement ne répond pas à leurs revendications. Pendant ce temps, les étudiants recommandent aux autorités de se pencher sur cette affaire. Paul Matendo a fait le tour sur le campus de ces deux universités le samedi 16 septembre. Suivez son reportage.
Dans ces deux établissements, le calendrier académique est retouché. Le début des examens de la deuxième session, initialement prévu le 11 septembre, est reporté. À l'UPN, un communiqué signé par le secrétaire général académique fixe le début de ces épreuves au 25 septembre prochain. À l'UNIKIN, par contre, la deuxième session commence ce lundi 18 septembre, selon certains étudiants. Sur place, la plupart des bureaux des professeurs sont restés fermés. Les étudiants demandent au gouvernement de régler cette situation.
Que le gouvernement puisse au moins faire de sorte que les professeurs ne puissent plus gréver, parce que c'est nous qui perdons, c'est nous qui sommes préjudiciés.
Nous sommes vraiment arrêtés, nous voulons finir l'année. Nous demandons surtout au gouvernement de faire quelque chose pour les professeurs.
Dans ces deux institutions, certains professeurs sont présents pour s'acquitter de leurs devoirs académiques, alors que la grève s'est dit radicalisée. Comment comprendre ce paradoxe? Un étudiant explique.
Il y a dans certaines facultés où les examens se passent, d'autres où les examens ne se passent carrément pas. Certains sont du pouvoir là-bas et ils ont déjà quelque chose en poche. Mais d'autres qui n'ont pas d'autres ressources ou peu de ressources se disent « bon, à quoi bon continuer alors qu'on ne paye pas ?»
À l'UPEN comme à l'UNIKIN, les étudiants disent attendre la suite de pourparlers entre le gouvernement et les syndicats des professeurs avant de se prendre en charge.
Actualité Afrique Monde.
Commençons par la Côte d'Ivoire. À Abidjan, sur la commune d'Abobo, un grave incendie s'est déclaré au Grand Marché vers 20h. Les pompiers tentaient encore à 2h du matin de circonscrire les flammes, tandis que quelques riverains et commerçants faisaient la chaîne pour tenter d'éteindre les flammes avec quelques seaux et bassins d'eau. La Chine, premier pays pollueur de la planète, peine à améliorer la qualité de l'air. Dans sa lutte contre la pollution, à son apogée en hiver, la ville de Pékin vient d'annoncer qu'elle va suspendre la construction de certains grands projets publics durant cette saison. La mesure concerne 6 grands quartiers de Pékin. Durant 6 mois, du 15 novembre au 15 mars, les chantiers de construction de routes, mais aussi de démolition de logements, seront à l'arrêt. En revanche, ceux concernant les aéroports, les chemins de fer ou les logements à loyer modéré pourraient continuer si la commission municipale de logement donne son accord. Et c'est tout pour l'actualité internationale. Merci de rester avec nous.